Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bem, bonjour à toutes et à tous. Passagem de Nível, c'est dimanche 13 juillet. Ça veut dire que demain, c'est jour férié. Et voilà, on va continuer notre périple dans la région parisienne, et ceci quand on est à 9 mois des élections municipales, en principe mars 2026. On va aller jusqu'à Crosne, dans le département de l'Essonne, après on partira dans le Val-d'Oise, à Montigny-lès-Cormeilles, et finalement on ira jusqu'à Houille, département 78. On va parler également des deuxièmes journées d'information franco-portugaise sur les retraites, qui vont avoir lieu de 7 à 9 octobre à Paris. Et après, bon, après on va parler de la réunion des conseillers des communautés portugaises. Eh bien, pendant 3 jours, ils ont été réunis à Lisbonne. Ils ont pu s'entretenir avec des membres du gouvernement, mais également avec les partis politiques. Et finalement, on parlera d'une pétition dont le Parlement portugais doit débattre, pétition que demande la reconnaissance de l'État palestinien et également que l'aide humanitaire puisse rentrer à Gaza. Mais déjà, on part justement dans l'Essonne. Michael Damietti, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, monsieur le maire, merci. Alors, si on va faire un pré-bilan, parce que bon, quand il y aura la campagne électorale, on va revenir à l'affaire, bien entendu. Mais depuis 2020, donc 5 ans et demi de mandat, bon, on dirait que vous n'avez pas été épargné, hein, parce que entre le Covid, entre-temps, le gouvernement Barnier, gouvernement Bayrou, etc., etc., réduction des dotations de l'État, il faut faire des économies, vous, les collectivités territoriales, comment est-ce que vous avez vécu ces 5 années et demie?
Écoutez, vous avez raison de rappeler le contexte, parce que ça a été un mandat particulièrement difficile. On a commencé avec la crise du Covid et on a enchaîné sur différentes crises, que ce soit la crise énergétique, les différents conflits qu'on voit ici et là. Et en effet, les économies qui sont demandées par les gouvernements successifs, puisque on en a vu un certain nombre. Vous pouvez rajouter l'exigence aussi de nos concitoyens, qui est de plus en plus forte. Donc ça a été un mandat, en effet, assez mouvementé. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour répondre aux exigences et suivre.
On a... c'est coupé pour le moment. Monsieur Michael Damietti?
Oui, vous m'entendez?
Oui, mais parfois ça coupe.
Ah. Bah,
je suis désolé. C'est bilan, mais bien entendu, ceci dit, les problèmes continuent pour les habitants de Crosne. Un certain nombre de choses, hein, sachant que finalement, c'est le pouvoir local, c'est le plus grand investisseur en France. Comment gérer tout ça, hein, sachant que, en plus, bon, vous avez de l'argent en moins et des responsabilités financières en plus?
Plus en plus difficile, vous avez parfaitement raison. La solution de facilité serait de jouer sur la fiscalité, alors ce qu'on n'a pas fait à Crosne, pas d'augmentation d'impôts ni d'augmentation des services que la ville propose. Après, voilà, il faut être faut faire jouer encore plus la concurrence, et puis parfois il y a certains projets qu'on a été obligé aussi de décaler, faute de ressources nécessaires. Mais on trouve toujours des solutions, c'est aussi la particularité des collectivités locales. On est sur le terrain, donc il nous faut trouver des solutions.
Mais ces solutions-là, ça passe par où? Donc il faut faire, faut couper dans le budget, dans certains nombres de dépenses. Où vous avez coupé les dépenses?
Vigilant, notamment sur l'énergie, par exemple. Quand on a eu la crise énergétique, on a mis en place des solutions pour être encore plus efficace sur cette consommation, soit en changeant avec des chaudières plus efficientes ou en étant plus attentif à la consommation d'énergie. C'est aussi, je vais vous donner un exemple, des colonies que nous faisions tous les étés sur lesquelles nous avons réduit la durée. Pas mal de solutions, renégocier les contrats avec nos différents fournisseurs. Donc voilà. Et toutes ces petites économies font qu'à la fin, on arrive à trouver un équilibre de service. Hein, l'été, on faisait des animations plus importantes, ben cette année on les a un petit peu réduites. Donc voilà, il a fallu s'adapter sans que ça cause du tort à la population, tout en trouvant voilà ce juste équilibre. Mais l'équation est de plus en plus difficile, et il y a un moment on se dit mais qu'on peut plus après ralentir ou réduire sur ce qu'on peut. C'est pour ça.
Monsieur Damiati, est-ce que vous pouvez vous approcher peut-être d'une fenêtre, parce qu'il y a effectivement, il y a beaucoup, ça coupe beaucoup.
Ça coupe beaucoup. Ah, je suis désolé. Alors voilà, j'essaye de mettre au plus proche. Donc voilà.
Alors, il y a une question, on sait très bien que bon, la situation économique est difficile, surtout même pour les gens qui travaillent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, ça veut dire de finir le mois, et donc la précarité augmente. Là, je pense concrètement au troisième âge, quand on voit la moyenne des pensions de retraite, bon, ça laisse beaucoup à désirer, les loyers continuent à augmenter, donc je pense que vous avez été sollicité, à la mairie, vous avez été sollicité, bon, parce que les gens, ils cherchent de l'aide.
Oui, alors on a été sollicité, c'est vrai, donc on a aussi des moyens qui sont limités. Alors notre rôle, c'est de les aiguiller pour pouvoir les aider, pour trouver des solutions, et c'est aussi de s'occuper, alors l'aspect économique d'une certaine mesure, mais c'est aussi de leur faciliter la vie en proposant d'autres services, en les accompagnant. Là, on a eu cette période de canicule où on a pris aussi soin de nos aînés, donc voilà, on essaye d'être au plus près d'eux. On n'a pas toutes les solutions, et notamment d'un point de vue économique, nous sommes aussi limités. Donc on a le CCAS qui aide les personnes qui sont en difficulté, notamment les gens du troisième âge, mais dans une certaine mesure et en fonction des moyens dont nous disposons.
Alors, Monsieur Damiati, quel montant vos finances ont été amputées par les décisions de l'État de réduire environ 3,5 à 4 milliards, justement, des dotations aux collectivités territoriales?
Augmentation, donc, de la dotation générale que nous donne l'État. Je vous disais, donc, les dotations de l'État...
Ça coupe énormément, je suis vraiment désolé, pour vous et pour nos auditeurs. Donc, pouvez continuer, s'il vous plaît?
Non. Je pense qu'on a vraiment un problème, Monsieur Damiati.
On va vous rappeler, ça ne vous dérange pas, on va rappeler, parce qu'effectivement, c'est confortable pour personne. Donc, là où on est à Crône, après on doit partir, où ça? À Montigny-lès-Cormeilles et après à Houille. Bien entendu, la campagne électorale n'a pas encore commencé, et effectivement, et tout le temps, les interviews, il faut tout noter et marquer et garder le temps à partir du mois de septembre, là où sera nommé le directeur financier de chaque candidature. Monsieur Damiati, on vous a récupéré?
Oui, c'est bon, moi je suis là, Arthur.
Alors, parfait. Alors, non, mais il y a des secteurs que ça a été coupé, bon, par rapport à l'investissement, par rapport à la culture. Alors, on sait que la plupart des départements ont fait des coupes sombres. Ça concerne la culture, comment ça s'est passé au niveau de l'Essonne?
La culture, c'est une compétence qui est gérée par la ville et la communauté d'agglomération, et aussi bien sur la ville que sur l'agglomération. Nous avons décidé de maintenir les budgets, donc à ce niveau-là, ça n'a pas été une coupe sur l'aspect culturel. Mais ça, c'est vraiment un choix politique, et est-ce qu'on pourra continuer dans cet esprit dans les prochaines années, c'est une vraie question. Néanmoins, à aujourd'hui, la culture n'a pas été privée, parce que avec le président de l'agglomération, François Durovray, nous avons fait ce choix-là. Et à Crône, c'est pareil.
Alors, il y a un secteur aussi très important, c'est la petite enfance, parce que bon signe, le nombre d'habitants augmente, mais il faut que l'intendance suive. Je pense particulièrement aux crèches, par exemple.
Oui, alors là aussi, au niveau des crèches, on a essayé de maintenir, parce qu'il y a quand même des postes qui sont essentiels, la sécurité, la petite enfance, donc on n'a pas touché à ces budgets-là. Et on constate, la population, c'est vrai, mais les gens font quand même moins d'enfants. Donc sur ce secteur-là, on a essayé de trouver les bons équilibres. Pour vous donner un exemple, on est passé de 5 composants dans les cantines à 4 composants. D'abord pour réduire le gâchis alimentaire, ça c'était notre élément principal. Mais ça nous a permis aussi de faire une économie sur le contrat et de revoir le contrat avec notre prestataire. Donc voilà des solutions, on va dire, locales et efficaces.
Alors, Monsieur Miguel Damiati, avec tous ces problèmes, bon, et je rappelle, 2020, bon, on a eu le confinement, 2019, etc., c'est le Covid, finalement, au sein de l'équipe municipale, c'est pas évident, c'était de garder une certaine unité, parce que parfois, il y a des tensions parmi les membres du conseil municipal.
Et c'est vrai que sur ce mandat-là, on l'a vu dans de nombreuses villes, et c'était le cas à Crône, des tensions qui se sont créées, alors des tensions justifiées ou pas justifiées. Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'État et notamment à l'Assemblée nationale, malheureusement, ça donne pas un bon exemple et une bonne vision de la politique. C'est aussi le jeu de la politique où la démocratie permet aux uns et aux autres de s'exprimer. C'est toujours dommage, parce que quand on prend un engagement, il faut le tenir jusqu'au bout. Et quand il y a des choses à dire, ben on le fait, mais au moment venu. Maintenant, pendant ce mandat, on a vu de nombreuses équipes se disloquer, d'autres élections partielles en Île-de-France qui se sont faites. Donc voilà, la politique est quand même assez tendue parce que justement, la situation est de plus en plus difficile entre les exigences d'un côté et les moyens qu'on nous donne. Donc ça crée des tensions et ça se ressent dans les équipes municipales, vous avez raison.
Et au niveau des élus municipaux, bon, les responsabilités s'accumulent. Et entre-temps, un certain nombre de personnes disent non, c'est trop. C'est trop, oui. Je donne trop de ma personne. Il y a pas mal, surtout des petites villes où il y a plus de candidats. Donc c'est le préfet qui doit gérer ça directement. Oui. Donc il y a vraiment une crise et ce n'est pas uniquement une question de violence physique et également, bon, même avec des injures, etc., envers les élus, parce que finalement, vous êtes les seuls élus qu'on peut côtoyer dans la rue, qu'on peut croiser et avec qui on peut soulever des problèmes.
Absolument. On a l'habitude de dire qu'on est les élus à portée de baffe, et c'est vrai, parce qu'on côtoie, on croise, vous voyez, ce soir, vous parliez du 14 juin.
Monsieur Damiati, oui. Alors, oui. Rapidement, parce que ça coupe régulièrement.
Ce soir, par exemple, on a le feu d'artifice, donc forcément, on va avoir du monde. Donc, on est à proximité des gens, mais surtout, les gens sont aussi de plus en plus exigeants. Et quand ils n'ont pas d'autres solutions, c'est vers les municipalités qui se retournent et qui partagent justement leur inquiétude et leur exigence. Et ça, c'est difficile à porter parce que vous êtes sollicité, j'allais presque dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mmh. Et c'est difficile et on ne sent pas forcément un soutien de l'État à ce niveau-là, à tous les niveaux. Donc, et vous avez raison, les violences, ce n'est pas que physique.
Monsieur Miguel Damiati, je vous remercie. Donc, vous êtes maire de Crône dans le département 411. Et on reviendra à vous vers le mois de septembre pour savoir si vous êtes à nouveau candidat au poste de maire de Crône. Merci bien, monsieur Damiati.
Merci Arthur et bel été à vous et à tous vos auditeurs.
Merci. Et maintenant, on part où? On part dans le 94, dans le Val d'Oise, à Montigny-les-Cormeilles. Madame Manuela Merle, bonjour.
Bonjour, c'est Nathalie Sylvain. Alors, 95, hein, pas 94.
Oh là, qu'est-ce que... Non, le 94, non, parce que nous, on est basés, oui, et pourtant, je connais bien le Val d'Oise.
Ben oui. Oui.
Alors, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Montigny-les-Cormeilles avec Agissons pour Montigny. Parallèlement, vous êtes également conseillère municipale et départementale. Alors, Madame Merle, alors, comment est-ce que vous avez vécu ces 5 années et demie dans l'opposition à Montigny-les-Cormeilles, parce qu'il y a eu des changements énormes dans la ville?
Tout à fait, Arthur, tout à fait, vous avez raison. Donc déjà, en effet, donc je reviens un petit peu sur qui je suis, donc Manuela Mello, donc installée à Montigny depuis 26 ans. Et du coup, oui, en effet, conseillère municipale d'opposition depuis 2014, donc ça fait 11 ans. Donc comment vous dire que je connais bien mon territoire. Donc, présidente du groupe Agissons pour Montigny depuis le départ de mon collègue Modeste Marquès, hein, que vous connaissez et que je tiens à saluer. Et depuis 2021, conseillère départementale dans le beau département du Val d'Oise. Mmh. Donc, écoutez, les 5 et demi dernières années ont été pour Montigny marquantes. Hein. En effet, donc ce mandat a été marqué par un événement tragique. Hein. Comme vous le savez, notre maire Jean-Noël Carpentier est décédé en novembre 2024 de façon très tragique. Hein. Donc voilà, c'était un homme qui aimait profondément sa ville. Et même si aujourd'hui nous n'avions pas toujours partagé les mêmes combats, je tiens vraiment à saluer sa mémoire et à témoigner mon respect. Mmh. Voilà. Première chose.
Oui.
Et donc en effet, cet événement a profondément bouleversé la ville et la vie municipale, puisque nous avons l'élection d'un nouveau maire en décembre dernier, sans une véritable légitime démocratique, hein, puisqu'il a été élu à seulement 30 voix en conseil municipal. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'aspect un peu tragique des dernières années sur Montigny.
Alors, il faut dire que, si je me souviens bien, 2020, votre liste, à la tête de laquelle était M. Modeste Marques, justement, vous avez failli gagner, vous avez perdu pour quelques dizaines de voix, si je me souviens bien.
Alors ça, c'était plutôt en 2014.
En 2014, Arthur. Oui.
En effet, voilà, en 2014, on a fini donc à 8 voix de différence. Voilà. Donc, et puis en 2020, nous avons fait donc un bon score, mais malheureusement avec le Covid qui est venu perturber ces élections-là, évidemment, en tant qu'élu de l'opposition, c'était moins facile pour nous. Mais toujours dans une bonne opposition, grâce à Modeste Marquez qui depuis 2013 a une véritable opposition à Montigny.
Alors, Montigny a souffert, je dis souffert, bon, c'est pas péjoratif ce que j'ai dit, mais enfin, un certain nombre de changements, le nombre d'habitants a augmenté d'une façon énorme. Montigny avait le village est tout en haut du... Ouais, après, c'est coupé par la nationale, mais enfin, la ville de Montigny-les-Cormeilles. Mais est-ce que finalement, la tendance a suivi, je vais parler davantage d'habitants, davantage de crèches, davantage de places aussi à l'école primaire, etc., etc. Quelle a été l'évolution à Montigny-les-Cormeilles, bon, depuis environ 10 ans?
Écoutez, comme vous dites, Montigny est emblématique. Hein, on est séparé par une route départementale, la RD14, avec une zone d'activité qui est au milieu de deux autres villes de zone d'activité, Herblay et Franconville. Donc un passage énorme sur cette zone d'activité de 4 voies. Voilà, donc c'est vrai que avec les différents projets, et notamment, je vais vous parler tout de suite du gros projet. De cœur de ville hein, qui a été amorcé depuis quelques années et qui malheureusement nous apporte de plus en plus d'habitants sur la ville, mais avec des infrastructures qui ne suivent pas. Voilà, ça c'est vraiment en 10 ans, j'ai envie de vous dire, rien n'a changé malheureusement. Donc à part ce gros projet qui est venu, qui est ce gros projet immobilier massif sur lequel nous nous opposons depuis longtemps et qui est lancé sur la RD14 avec une densification importante, avec des centaines de logements construits sans concertation, je tiens à le dire, puisqu'il y a eu un audit mais qui n'était pas vraiment un audit que nous avons dénoncé. Et ni anticipation des équipements publics. Donc, en effet, il y aura la construction d'une nouvelle école, ce qui est tout à fait logique, hein, avec 900 logements qui arrivent sur cette départementale. J'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix. Par contre, rien à l'horizon pour un gymnase, ni de salle culturelle ou même associative digne de ce nom, parce que notre ville on en a tant besoin. Voilà. Et surtout au niveau des crèches, rien dans la petite enfance. Hein, et je pense notamment aux crèches pour lequel nous nous battons tout le temps depuis des années, alors même que la majorité a fermé des lits récemment, faute de personnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à notifier. Pas de stratégie au niveau des transports et aucun service de proximité. Ils sont tout simplement dimensionnés pour faire face à cette densification. Donc il y a vraiment pas de service aujourd'hui nous proposer, ce que d'ailleurs nous dénonçons au conseil municipal. Donc à chaque fois qu'on parle de ce projet de cœur de ville, puisqu'en fait le projet de faire sur cette RD14 de 4 voies un centre-ville pour justement lier ces deux, le village de Montigny et le bas de Montigny. Mais bon, voilà, je trouve ça un peu, bizarre d'appeler ça un centre-ville en plein milieu d'une RD14 4 voies. Donc ouais. Voilà.
Alors Madame Mello, les services publics à Montigny. Petit à petit, c'est devenu un désert par rapport à ça. Il y avait à la gare, à côté de la gare de Montigny-Beauchamp, il y avait une permanence de la sécurité sociale. Un peu plus haut, c'est ce qu'on appelle le centre-ville, bon, autour de boulevard de centre Picasso, etc., etc. Il y avait une permanence de la CAF. Je pourrais continuer comme ça, hein. Un bureau de poste qui a fermé. Bon, c'est vrai que les municipalités n'ont pas leur mot à dire, apparemment, mais au niveau départemental, bon, et surtout du député du secteur, bon, il n'y a rien à faire, les services publics disparaissent. Maintenant, pour faire le moindre papier, il faut aller à Cergy ou à Pontoise, etc. Bon, il n'y a rien à faire pour essayer d'inverser la situation.
Bien sûr que si, il y a toujours des choses à faire. D'en plus, ce qu'il faut surtout, c'est travailler avec le département, avec la communauté d'agglo pour justement réfléchir à ça. Et notamment, en tant que conseiller départemental, je suis bien au fait de ce sujet-là, puisque bon, c'est quand même la compétence du département, tout ce qui est social. Oui. Et je suis je suis très 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 étonné. Je vous cache pas qu'il y a quelques quelques, ça fait déjà remonter peut-être à un an, où il y avait une proposition de créer une maison des solidarités à Montigny, mais qui a été refusée par le maire, puisque nous n'a pas été capable de nous trouver un terrain. Donc c'est bien dommage, puisque Montigny, voilà, je l'explique, hein, c'est quand même 38% de logements sociaux. Il y a un besoin vraiment au niveau de la population du lien social, et tous ces services publics, malheureusement, qui sont partis, pas que sur Montigny, hein, sur toutes les villes, hein, qu'on a pu le à Montigny, puisque voilà, les personnes n'ont pas de mobilité, il faut aller à Herblay pour aller consulter les assistantes sociales. Voilà, il n'y a pas de réponse. Alors certes, nous avons un France Service qui a été créé par la communauté d'agglo au niveau de la gare, mais qui aujourd'hui est saturé et qui ne répond pas forcément à tous les besoins de nos habitants, en tout cas aux besoins réels. Donc voilà, des projets qui peuvent être construits, il faut juste travailler avec nos partenaires territoriaux, et évidemment. Après, c'est une volonté politique ou pas.
Alors, Madame Mello, je pose une question, ce n'est pas une colle. Hein. Combien d'heures elle est ouverte, l'antenne de la police nationale, justement à côté du centre Picasso, combien d'heures par semaine?
Alors, combien d'heures, je vais pas vous les compter là. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont insuffisantes et que ce bureau de poste est ouvert dans des heures administratives, c'est-à-dire, je crois que 8h30, 9h selon les jours, et 16h30, 18h pour le soir. Donc elle ne répond absolument pas aux attentes des habitants. Mais là, vous me tendez une perche, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du coup un peu sécurité à Montigny. C'est vraiment... la sécurité aujourd'hui est très préoccupante à Montigny. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu certains chiffres, mais je vais vous les donner. Notre ville est classée malheureusement l'avant-dernière ville du Parisis sur ce sujet-là. Donc l'avant-dernière ville. Donc c'est quand même très 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 alarmant. Et donc il y a vraiment un sentiment d'abandon et d'incivilité qui augmente, hein, et qui engage constamment nos agents de police municipale et nationale, que d'ailleurs je salue, mais malheureusement avec des effectifs beaucoup clairement insuffisants. Donc pour répondre aux besoins d'une commune comme la nôtre, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'augmentation d'une population qui ne cesse, hein, puisque au-delà du cœur de ville qui va être construit jusqu'en 2030, il y a énormément de logements qui sont arrivés au niveau de la gare.
Ah oui, tout à fait. Il y avait des espaces verts qui sont disparus.
Tout à fait. Oui, des espaces verts qui ont disparu. Et en plus, on a la promotion quand même de la majorité aujourd'hui qui nous dit qu'on est à un pas d'un espace vert. Donc, c'est vrai qu'ils ont réhabilité certains espaces qui étaient un peu en friche. Mais malheureusement, la dimension du bétonnage et de l'urbanisation qui est en train de se faire et qui a été déjà faite et qui va encore se faire, fait très peur. Hein, surtout sur des climats où on voit de plus en plus où à Montigny commence à faire très chaud. Bah oui, parce que malgré que les espaces verts qui existent ne suffisent plus. D'autant plus qu'on est une petite ville, hein, en niveau. On est encloisonné entre les autres villes. On peut pas dire qu'on a un parc énorme autour de nous, quoi. Donc je reviens sur l'insécurité, hein, qui résume qui reflète un manque de prévention, voilà, ou je dirais même une prise de conscience trop tardive de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, pour vous dire quelques chiffres de délinquance, on est quand même à 1203 faits de délinquance qui ont été recensés en 2024, pardon, soit un taux alarmant de 45 pour 1000 habitants, avec des vols de voitures, parce que c'est vraiment ce qui est le quotidien des gens aujourd'hui. Hein. Moi, je suis appelé pratiquement tous les deux jours pour me dire qu'il y a un vol de voiture ou voiture brûlée, donc des cambriolages, des trafics de stupéfiants, parce qu'on est quand même la ville où dans la communauté d'agglo où on souffre énormément de ce trafic-là. Et des agressions. Donc, et également quelque chose qui m'étonne et qu'il faut vraiment pas ignorer, c'est la violence physique, en particulier au niveau des agressions. 273 agressions enregistrées, soit 91 ciblant spécifiquement des femmes. Donc là.
Mais Madame Mello, bon.
Voilà. Et donc pour finir, police nationale qui est intégrée chez nous,
mais
malheureusement,
qui est basée à Herblay,
qui ne répond pas. Alors la police nationale est basée à Herblay. Non, nous on dépend du poste de police nationale d'Hermont. En plus, on ne dépend pas d'Herblay.
C'est encore plus loin.
c'est encore plus loin, plus compliqué pour les gens. Donc j'avoue que certains me disent qu'ils abandonnent d'aller même porter plainte pour des petites choses parce que trop loin. Mmh. Même si je leur dis qu'aujourd'hui il est possible de faire de pré-enregistrer une plainte en ligne et que voilà, le service public au niveau des matérialisations évolue. Mais voilà, et puis nous avons quand même, c'est vrai, cette chance, comme vous disiez, d'avoir un poste de police nationale chez nous, c'est-à-dire une antenne, mais qui malheureusement n'est pas, ne répond pas, puisqu'elle ne répond pas aux attentes, elle n'est pas ouverte au bon moment, bon voilà, c'est juste elle ne répond pas.
Voilà, bon, de toute façon le constat c'est que les services publics disparaissent justement là où il le fallait. Alors madame Mello, bon, on sait très bien, bon, ça a commencé avec monsieur Barnier, ça continue avec monsieur Bayrou, apparemment les collectivités territoriales dépensent trop. Donc, s'il y a un déficit au niveau de l'État, c'est la faute aux collectivités territoriales. Alors, bien entendu que Montigny et Le Cormier n'a pas échappé, disons, à la réduction des dotations, etc. Ça n'a pas été facile non plus pour la majorité en place.
Alors, c'est facile pour aucune ville, hein, comme vous dites.
Hein, tout à fait.
Conséquence d'une dissolution qui nous a quand même bien perturbé sur toutes nos politiques nationales. Mais pour revenir à Montigny, voilà, je tends la perche. En effet, nous avons subi, mais pas trop quand même, puisque les dotations sont maintenues, mais bon, on n'augmente pas. Par contre, la grosse difficulté aujourd'hui pour Montigny, c'est le budget. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le doublement de la dette depuis un an. Voilà, donc la ville de Montigny, qui était jusqu'à présent quand même stable au niveau budget, nous sommes passés de 900 et quelques euros de dette par habitant à 1700 en un an. Donc ça, je tenais à vous le dire et je vous remercie de me tendre la perche parce que c'est vraiment le sujet important aussi pour Montigny. Au-delà des services publics manquants, nous avons aujourd'hui une dette qui a doublé et qui va être malheureusement payée par la génération à venir, puisque la ville a contracté une dette de 14 millions d'euros sur 43 ans.
Voilà. Mais, Madame Mello,
indexé. Oui.
Madame Mello, alors si les dotations d'État sont réduites, si bon, il n'y a plus la taxe d'habitation, il y a un certain nombre de choses qui sont disparues. Alors si une ville, étant donné bon, les municipalités, les collectivités territoriales n'ont pas le droit d'être en déficit. Alors si on veut investir, si on veut bon protéger la petite enfance, etc., etc. Les aides sociales, parce que bon, il y a une précarité énorme en France, et pas seulement en France. Mais enfin, bon, donc, il faut s'endetter pour pouvoir continuer à investir, ou c'est un raisonnement fou de ma part?
Écoutez, l'endettement, comme vous dites, nous, les collectivités territoriales, on doit être en équilibre. Donc, c'est comme gérer un budget de foyer, d'accord? Donc autant l'État a le droit de s'endetter et de ne pas être en équilibre, autant nous n'avons pas le droit. Et nous réduit ou nous n'augmente pas les dotations, et en plus ils nous demandent d'apparaître à leurs compétences qu'ils n'ont plus, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, les déserts médicaux sont énormes et nous on n'échappe pas, hein, surtout en Île-de-France, et aujourd'hui les villes sont obligées de trouver des moyens, encore une fois, et financiers et dans l'intelligence, de trouver des moyens pour faire venir des médecins pour être dans un service public. Donc comment fait-on demain? On s'endette, oui, mais à quel prix? Donc, de toute façon, comme vous dites, quelles sont les conséquences demain pour un endettement, surtout pour, alors je reviens sur ma ville, hein, puisque c'est celle que je connais le plus, hein, ça va être quoi? Ça va être une augmentation des impôts, ça va être, alors le choix qui est fait aujourd'hui, c'est pas d'augmenter les impôts, mais d'endetter les générations futures. Donc comment on va s'en sortir? Donc voilà. Après il y a des solutions. Il y a évidemment trouver des moyens de subvention. Il y a évidemment faire aussi attention à nos dépenses quotidiennes d'argent public, hein, puisque bon bah on sait très bien que on peut quand même voir. Il y a certains leviers où on peut s'y attacher. Mais oui, ça c'est quel est l'avenir aujourd'hui pour les collectivités territoriales si l'État se dissolarise de nous, quoi.
Oui,
voilà.
Alors, madame Manuela Merle, je vous remercie. Et on va attendre mardi. Ce qu'est mardi, monsieur François Bayrou va annoncer justement le budget pour l'année 25. Et ça promet, bon, il y a les promesses, bon, je sais pas.
Bon, enfin, on verra bien qu'est-ce qui s'est passé.
Oui. Mais bon, entre donc, les exigences et les moyens qu'on a aujourd'hui, bah, j'espère qu'il pourra répondre. Voilà.
Mais bon, bon, on verra bien. On attendra bien. Mardi prochain.
C'est ça.
Dernière question et rapidement. Donc, vous êtes en train de préparer une liste pour mars 2026.
Écoutez, je vous laisserai la surprise, mais évidemment, on sera là et on est là pour soutenir les habitants, avec les habitants, pour construire un projet pour eux et avec eux. Et oui, notre conviction, c'est de travailler dès aujourd'hui à leur côté pour construire l'avenir de notre ville. Ça, c'est sûr. Bon, tout à fait.
Donc, on reviendra au mois de septembre, une fois que la liste soit déjà faite, etc., etc., et pour accompagner la campagne électorale également à Montigny-lès-Cormeilles. Merci, Madame Mello.
Merci à vous de m'avoir invité et bon appétit à tout le monde et un grand merci à Radio Alpha. Au revoir.
Et on revient au direct, passage à niveau jusqu'à 14h ce dimanche 13 juillet. On a été dans le 91, dans le 95, maintenant on part au 78. Madame Monica Bellala, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci. Merci à vous de m'accueillir sur votre antenne.
Alors, vous êtes conseillère municipale d'opposition, génération, et ça finit par
oui.
un S. Et justement,
oui,
et bon, ça y est, vous avez déjà présenté votre candidature pour le 2026, mais on va attendre un petit peu quand même la campagne électorale pour vous inviter à nouveau et que vous puissiez développer votre programme. Alors, comme j'ai dit, conseillère municipale d'opposition du groupe Alternatif Citoyenne Écologique et Solidaire. Alors, comment est-ce que vous avez vécu. Ça fait déjà 5 ans et demi depuis 2020 comme conseillère d'opposition à Houille. Bon, apparemment, ça n'a pas été très pacifique d'après ce que j'ai pu savoir.
Alors, moi, je suis conseillère depuis 2014, donc c'est mon deuxième mandat. Mais si vous voulez qu'on parle plus particulièrement du mandat en cours, oui, ça a été un mandat très particulier. On a un maire jeune qui a été élu en 2020, qui avait fait beaucoup de promesses, des réalisations concrètes pour changer le quotidien des habitants de la ville. Mais aussi, il avait pris des engagements de mieux respecter les élus d'opposition. Et ça s'est pas passé comme, c'est pas vraiment passé comme ça, non. Ça, c'est... On a un maire dont le vernis républicain a craqué petit à petit sur le mandat. C'est peut-être ça dont vous vouliez parler en particulier.
Oui, en particulier, oui, parce que bon, je reviens justement au 2014. Vous avez milité ensemble avec le maire actuel sur une liste. D'ailleurs, je me souviens bien, il me semble que c'est la liste. Bon, je cherche le nom du maire en question à l'époque. Donc, à l'époque, il était OPS. Bon, actuellement, il a été élu Renaissance et il est le porte-parole du mouvement créé par M. Gérald Darmanin, qui est c'est le ministre de la Justice. Mais enfin, passons. Alors, c'est-à-dire, sans avancer dans votre programme, je pense que vous êtes en train de l'élaborer avec vous, le colistier. Vous avez parlé qu'il y a un besoin d'apaisement. Concrètement, qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Alors, l'apaisement, écoutez... Ce qu'on a évoqué en quelques mots précédemment, on a un maire et bon, certains membres de la majorité municipale qui, il est vrai, transforment souvent le conseil municipal en lieu d'affrontement assez violent et surtout très stérile. Moi, en plus d'être engagée donc pour l'écologie, la solidarité, moi je suis aussi engagée pour l'éthique et la transparence en politique. Donc je pense que c'est très important. Pourtant, d'avoir un comportement digne et le plus exemplaire possible en tant qu'élu, parce que aujourd'hui, vous savez, depuis maintenant quelques années, les conseils municipaux ils sont diffusés sur les réseaux sociaux, donc il y a des administrés qui voient ce qui se passe. Ça donne une très mauvaise image de la politique et ça peut les dissuader d'aller voter. Donc moi, je pense que un des enjeux essentiels pour le prochain mandat, c'est d'avoir une équipe municipale qui va avoir un comportement digne, en conseil municipal. Sur le terrain aussi, et qui va mettre un terme à ces affrontements stériles, à cette façon d'être constamment dans la polémique. Et vous savez aussi qu'il y a des procédures judiciaires qui ont été engagées vis-à-vis de certains élus d'opposition. Donc tout ça, c'est pas du tout conforme à ma vision de la démocratie locale.
Alors justement, pour vous, qu'est-ce que c'est la démocratie locale? Bon, normalement, bon, ça, je ne vais pas remonter autant de la commune. La commune, un élu, il respectait pas ses engagements, hop, on le changeait. Bon, mais un élu, bon,
il y a une votation, c'est la démocratie parfaitement, mais après l'élu il fait à peu près ce qu'il veut ou ce qu'il a envie de faire, parfois le contraire de ce qu'il avait proposé aux électeurs. Mais vous, concrètement, comment est-ce que vous voyez un maire et la démocratie locale? Qu'est-ce que vous changeriez?
Alors, on vient d'évoquer le fonctionnement du conseil municipal, donc ça c'est un des piliers évidents de la démocratie locale. Ouais. L'autre c'est bien sûr la démocratie participative. Donc on a un maire actuel, Monsieur Chambon, il a mis en place des consultations, il a lancé des enquêtes, mais derrière, est-ce qu'il a vraiment écouté les Auvillois? Permettez-moi d'en douter. Moi je pense qu'il y a des enjeux effectivement de que les gens soient mieux informés sur les projets. Donc on s'engage vis-à-vis des Auvillois quand pendant les élections, on s'engage, on fait des promesses, etc. Donc un des enjeux majeurs, c'est d'informer la population régulièrement de ce qui se passe, faire un point d'avancement une fois par an, deux fois par an, très concret sur la réalisation. C'est bien évidemment donc les informer, c'est les faire participer. Et il y a un enjeu de formation. Je parlais informer, mais il faut aussi former les citoyens. Moi-même, en tant qu'élu, vous savez, moi j'avais pas du tout d'expérience en politique quand j'ai été élu la première fois. J'ai dû me former. J'ai suivi des formations, je me suis formée moi-même. C'est pas du tout évident hein, quand on n'a pas forcément le temps, quand on est loin de certains sujets. Il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Je pense par exemple au budget. Le budget municipalité, c'est compliqué pour les gens de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien comprendre aussi comment fonctionne une mairie, les interactions avec l'agglomération. On fait partie d'une agglomération de plus de 330 000 habitants, donc il y a un vrai sujet aussi. On a des élus de la majorité qui sont partie active de cet agglo, qui ne communique jamais sur ce qu'ils font, à croire qu'ils ne veulent pas assumer leur bilan, leur mandat, le mandat qui leur a été donné, hein, parce qu'ils ont un bilan à la ville, un bilan à l'agglo. Donc on ne sait pas du tout, c'est une espèce de nébuleuse comme ça. Donc moi je pense qu'il y a des enjeux vraiment fondamentaux d'information, de formation, de bien sûr de consultation, de concertation. Il y a des instances qui ont été mises en place, je pense au conseil de quartier, la commission du temps long. Donc il faudra améliorer ces instances pour que les gens y participent davantage et qu'ils soient mieux impliqués et mieux informés. Moi, j'ai un exemple, très concret vous avez dû en entendre parler aussi, le réaménagement du parc Charles de Gaulle, qui fait beaucoup.
Oui, je vous écoute et après je poserai une question. Bon, si vous pouvez continuer. Après, continuez, pardon.
Oui, je finis là-dessus, pardon. Pour moi, c'est un exemple assez emblématique. Donc, il y a une enquête qui a été faite auprès des habitants sur ce qu'ils souhaitaient pour ce parc, parce qu'il fallait réaménager ce parc qui était en attente comme ça depuis pas mal d'années d'être réaménagé, revivifié, etc. Il y a eu des concertations, il y a eu une présentation du projet en 2023, et ensuite, on n'a plus du tout été informé. Et jusqu'à fin 2024, où avant de lancer les travaux, le maire a décidé d'abattre plusieurs dizaines d'arbres. Donc ça a fait ça a suscité beaucoup d'émoi dans la population. Et on s'est associé donc à cet émoi. On a protesté contre l'abattage des arbres, mais surtout on lui a demandé d'organiser une réunion publique pour répondre à toutes les questions que les gens se posaient sur le projet, puisqu'entre 2023 et 2024, il y a quand même des choses qui ont été faites, des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été expliquées à la population. Voilà, et il a refusé de le faire. Donc aujourd'hui, 2 ans après cette concertation, il inaugure petit bout par petit bout les nouveaux aménagements. Il y a des choses qu'on découvre, on n'était pas du tout au courant. Voilà.
Mais vous parlez de la friche Lagarde.
Oui, la friche de Lagarde, voilà.
Oui, parce qu'apparemment, il y a tout un programme, des projets immobiliers énormes, où, d'après ce que j'ai pu savoir, bon, le logement social, je ne sais pas s'il va y être ou pas.
Alors, la friche de la gare, ça c'est un projet qui est en souffrance depuis 30 ans.
Oui, depuis des décennies, en effet.
Ouais, tout à fait, depuis plusieurs décennies. Sur le mandat précédent, nous, avec mes collègues du groupe Ouille Ensemble, donc un groupe d'opposition également, on réclamait de la transparence. Ça n'a pas eu lieu. Sur ce mandat, le maire s'était engagé à être parfaitement transparent. Bon, il y a eu des bribes d'informations. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France qui a acquis les terrains pour 8 millions d'euros fin 2020, 1984. Et aujourd'hui, le maire en conseil, enfin en réunion publique il y a quelques temps, dit « je n'ai plus de projet ». Ce n'est pas vrai. Il a mandaté des cabinets, il les a fait travailler pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a des scénarios qui ont été proposés. Ce qu'il veut faire, c'est installer aussi bien de l'activité que de construire des logements. Et s'il est prévu des logements sociaux. Après, la copie que j'ai en tête, elle date de fin 2023. Donc, qu'est-ce qu'il a changé? Voilà, qu'est-ce qu'il a changé depuis? Il s'était engagé à le dire, c'est pas le cas.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de 2014, effectivement, la tête de liste, c'était Monsieur Florian Bohème.
Monsieur Bohème.
J'ai retrouvé son nom. Alors, 10% d'espace vert uniquement. À Houille. Alors, pour quelqu'un qui est très sensible à la question de l'écologie et bien vivre, on peut mieux faire?
On peut beaucoup mieux faire. Ouais. On peut beaucoup mieux faire. Donc, il faut créer davantage d'espaces verts. Il faut inciter à végétaliser un maximum. Il y a des quartiers aujourd'hui qui n'ont pas du tout de jardin public. Tout à l'heure, on parlait du parc de Gaulle. Il faudra sans doute envisager de revégétaliser davantage, parce que, par exemple, là, ces derniers jours, il a fait extrêmement chaud dans notre ville comme dans d'autres villes de France. Écoutez, c'est compliqué de trouver un endroit pour pouvoir se rafraîchir. Mmh. C'est un vrai enjeu de santé publique, de lutte contre les îlots de chaleur. Donc oui, on peut mieux faire.
Alors, il y a à propos de santé, mais apparemment les choses elles avancent. Hein, oui, a réussi à récupérer ce nombre de médecins.
Alors, sur la santé, il serait effectivement faux, mensonger de dire que l'équipe actuelle n'a rien fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Ils ont tardé à s'y mettre. Hein, faut quand même le dire. Ils ont attendu quand même la mi-mandat pour se mettre concrètement au travail. Mais effectivement, ils ont gardé certains médecins, ils en ont fait venir de nouveau. Et surtout, on attend l'ouverture de la maison de santé à horizon 2026-2027. Il y a quelques médecins qui se sont aujourd'hui engagés à en faire partie. Mais voilà. C'est un vrai sujet, bien sûr, puisque Houille est un désert médical. Il faut aller plus loin, il faut proposer une vision globale à travers une véritable politique locale de santé. Donc ça consistera bien évidemment à continuer d'encourager l'installation de praticiens, mais aussi à accompagner les Ovillois dans leur parcours de santé, notamment dans toutes les démarches, qui sont parfois très compliquées, des problématiques de coordination de soins, etc.
Alors, Madame Monica Bellala, ça y est, vous êtes en train d'élaborer votre liste?
Oui, tout à fait. J'ai un premier noyau qui se met en place et qui a vocation, bien évidemment, à s'élargir.
Alors, vous dites une liste très citoyenne, à savoir, c'est une étiquette pragmatique, mais pas dogmatique. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire?
Alors tout à l'heure on parlait des errances politiques du maire actuel. Moi je suis restée fidèle à mes convictions, à mes valeurs, mais pour autant je privilégie une approche pragmatique. On part un état des lieux de la situation du terrain et on propose des solutions correspondant aux problématiques locales. Encore une fois, bien évidemment, en restant fidèle à ses convictions, à ses valeurs. Mais en n'appliquant pas, par exemple, parce que certaines personnes disent « Oui, mais vous êtes dans un parti politique, alors vous avez une vision comme ça et très idéologique des choses. » Non, on est d'ailleurs, je crois que je suis assez reconnue pour ça localement, pour être quelqu'un de très pragmatique. À l'écoute des habitants.
Madame Bellala, le pire reste à faire parce que comment unir la gauche, surtout bon, les filles, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous allez avoir du travail hein, pour réunir la gauche autour de vous.
Écoutez, nous en 2004, en 2020, on l'avait fait, hein, on avait réuni toute la gauche. Ouais. Donc voilà, on l'avait fait. On l'avait fait, on était partis tous rassemblés. Voilà.
Donc il faut espérer que 2026 ce soit pareil.
Voilà, mais comme je vous l'ai dit, comme vous reprenez là certains éléments d'un article, hein, je crois que qui a été publié en début d'année. Donc évidemment, moi je revendique mon étiquette face à d'autres adversaires qui se disent sans étiquette. Moi, je revendique mon étiquette. Donc autour de moi, j'ai des anciens élus, des militants, mais aussi des citoyens, des gens qui sont pas forcément encartés, mais qui se reconnaissent dans les grandes thématiques qu'on a évoquées. Voilà, pour une ville plus écologique, plus solidaire, plus démocratique.
Madame Bellala, je vous remercie donc. Vous êtes conseillère municipale d'opposition à Houille, Génération, et vous allez présenter une liste en 2026. Bon, on fait déjà l'invitation, justement, pendant la campagne électorale. Vous serez la bienvenue aux antennes de Radio Alpha. Merci, Madame Bellala.
Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir. Ma pause musicale. Um poema de Flor Bela Espanca Ângela Silva, e isto antes das 13 horas.
Princípio e fim, nos versos que te fiz, traços de aprendiz, caindo a magia da flor.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 13 juillet. Ça y est, on avait parlé plusieurs fois, on n'avait pas de date, mais ça y est, ça va être du 7 au 9 octobre. Je vais parler de deuxième journée d'information franco-portugaise sur les retraites, justement, qui sont organisées par Assurance Retraite Île-de-France, en collaboration avec certain nombre d'organisations, AGIRC ARCO, ce qu'on appelle la retraite complémentaire, et du Portugal, où j'étais tout sur la société. Et encore la souveraineté sociale portugaise. Avec nous, on a Philippe Benville. Monsieur Benville, bonjour.
Bonjour.
Ben, ça y est, on a une date. Bon, on ne savait pas trop. Ça y est, c'est fait. Ça a été un petit peu difficile quand même de mettre sur place parce que trois journées comme ça d'information sur la retraite entre la France et le Portugal, c'est du travail à organiser.
Oui, c'est un travail de longue haleine. Vous l'avez rappelé, l'AGIRC ARCO, donc nos collègues de la retraite complémentaire, et évidemment nos collègues de la caisse portugaise et l'assurance retraite pour le régime de base. Donc c'est trois acteurs. Il faut arriver à trouver les dates qui vont bien à tout le monde. Et puis après c'est une belle organisation et c'est toujours la garantie d'un succès auprès des assurés qui sont concernés.
Alors, il y a une date d'inscription, c'est jusqu'au 17 août, mais Monsieur Benville, bon, on est en période de vacances, vous croyez que c'est possible de déplacer un petit peu cette date limite d'inscription ?
Alors, c'est vrai qu'on réfléchit, on verra si en effet on a rempli, il y a 160 créneaux qui sont ouverts sur les trois jours, donc c'est beaucoup de rendez-vous. Si jamais en effet on voit qu'on a encore des créneaux qui sont disponibles à la mi-août, on prolongera probablement encore un peu pour que celles et ceux qui sont partis et qui reviennent et qui ont l'info puissent s'inscrire. Mais il y a 160 rendez-vous. Si les 160 rendez-vous ont trouvé preneur d'ici là, les journées seront complètes jusqu'aux prochaines.
Alors, ces journées vont avoir lieu à l'assurance retraite Île-de-France, 12 rue de Joinville à Paris, 19e métro, ligne 7, station Crimée, mais il y a aussi des bus. Alors, comment ça va se passer? Alors, l'inscription, il y a un lien pour le faire. Bon, c'est, je dis, bon, on l'a déjà partagé, la radio AFAR l'a déjà partagé, mais il faut faire copier, coller, etc. Mais il n'y a pas un lien le plus direct si on fait assurance retraite de France directement. Alors, si on pianote, on va pas s'y retrouver.
Si on va en effet sur le site de l'assurance retraite Île-de-France, tout de suite sur la page d'accueil, la première actualité qui va apparaître, c'est l'actualité sur les journées franco-portugaises. Donc vous avez tout de suite et les informations pratiques et le lien pour les inscriptions, parce qu'en effet, il faut le rappeler, c'est uniquement sur inscription et sur rendez-vous. C'est très important parce qu'en fait, ça permet et aux conseillers français et à nos amis conseillers portugais de préparer les dossiers de manière à ce que quand vous arriviez, toutes les informations soient prêtes et que vous puissiez poser toutes vos questions et obtenir toutes les réponses.
Est-ce que, je me rappelle des premières journées franco-portugaises sur la retraite que Radio a accompagné du début à la fin. Justement, c'est que quand on arrivait, on commençait par la caisse portugaise et on avait un relevé de carrière et on faisait le tour des caisses et à la fin, quand on sortait, le dossier était en route.
Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on va essayer de s'organiser pour les prochaines journées d'information. En effet, on va d'abord rencontrer un conseiller portugais, on pose toutes ces questions, on récupère les documents, notamment les relevés de carrière, et puis après, si on le souhaite, si on en a besoin, on peut rencontrer les conseillers français et de la caisse du régime de base, c'est-à-dire l'assurance retraite, et l'AGIRC ARCO pour la partie complémentaire. Mais c'est comme ça qu'on organise le circuit et le but, c'est vraiment qu'il y ait le moins de réponses c'est que vous puissiez poser toutes vos questions aux collègues portugais et aux collègues français de manière à avoir vraiment toutes les réponses à toutes vos questions. Donc, il faut se préparer, à poser toutes les questions. J'ai travaillé au Portugal, je vis en France. Je travaille en France, je compte rentrer au Portugal pour ma retraite. Toutes les questions sont bonnes à poser.
Voilà, et entre-temps, il y a certains hommes qui ont travaillé en Suisse, qui ont travaillé au Luxembourg,
oui.
Voilà. Tout ça,
oui.
ça c'est important. Alors,
il faut profiter pour évidemment poser les questions. Alors, quand on a des carrières encore plus complexes que juste France et Portugal, ça arrive, on en a de plus en plus, des gens qui ont comme ça été un peu itinérants. Là, il faut poser les questions, il faut profiter d'avoir les conseillers de la caisse portugaise et de la caisse française pour poser toutes les questions. Si vous résidez en France au moment où vous faites les démarches, c'est la caisse française qui fera toutes les démarches pour vous.
Voilà, tout à fait. Alors, il faut dire que ces journées s'adressent aux personnes de plus de 55 ans.
Oui, il y a beaucoup de demandes, donc c'est vrai qu'on se dit que 55 ans, c'est le moment idéal pour commencer à préparer sa retraite, qu'on la prenne à 60, à 62 ou à 65, mais c'est le moment de se lancer dans les vérifications, peut-être qu'on va avoir des justificatifs à fournir, donc on s'y prend bien à l'avance, on anticipe ces démarches, et après on s'assure que le passage à la retraite est quelque chose qui sera plutôt simple, mais il y a ce travail qui est à faire avant. Donc, on ouvre pour le moment les rendez-vous aux personnes qui ont 55 ans et plus.
C'est plus. Alors, pour prendre rendez-vous, justement, il y a quelque chose de... Quand on rentre dans le système, déjà, il faut saisir l'adresse mail, avoir un mot de passe que ce n'est pas le même qu'on utilise d'habitude quand on va sur le site de l'assurance retraite. Donc on va créer un mot de passe à part, c'est ça?
Alors je vais être honnête avec vous, j'avoue que moi je n'ai pas essayé le module d'inscription, mais je pense que voilà, l'inscription n'est pas très compliquée. On est obligé un peu de la sécuriser.
Oui, tout à fait. Non, mais je l'ai ouvert. Hein. J'ai fait tout ça.
Oui, vous avez...
Et on a automatiquement, on a un genre de rectangle où on dit on doit mettre notre mail, l'adresse mail, et après avoir un nouveau passe, disons un password, pour parler bien français. Voilà, justement. Donc, c'est bien en place. On le voit facilement et après, c'est juste avec...
Oui, c'est pas très compliqué, comme en effet, il y aura beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de rendez-vous, c'est 160, mais 160, on sait qu'habituellement, c'est rapidement pourvu. Il ne faut pas hésiter à le faire maintenant, soit avant ses vacances, soit au retour des vacances. Et on verra, en effet, on en discutait, puisqu'on va pas, on peut le dire aux auditeurs, on s'était parlé avant. Et en effet, depuis, j'ai parlé avec les gens qui organisent pour essayer de voir si on pouvait pas un peu repousser la date. On m'a pas dit non, alors on va espérer que ça soit peut-être oui.
Voilà, c'est. Alors, il faut dire aussi, une fois qu'on s'inscrit, on va nous renseigner. Il faut penser à se munir de pièces d'identité, carte sécurité sociale et tout autre justificatif, études, activités, chômage, enfants. Il y a même des gens, je me souviens des premières journées, qui ont apporté tous leurs certificats de travail.
Oui, alors, on n'est pas forcément obligé de tout amener, surtout si on a eu une très grande carrière, mais en effet, c'est des documents qui vont permettre d'abord de retrouver les immatriculations quand on a été immatriculé au Portugal, en France, et ça c'est plutôt bien. Mm-hmm. Il peut arriver parfois pour les personnes qui ont commencé à travailler dans les années 70-80 qu'on ait eu un ou deux numéros de sécurité sociale en France, ça peut être arrivé aussi. Donc il ne faut pas hésiter en effet à porter quelques documents, et puis si on voit qu'on en a besoin d'un peu plus, on vous expliquera comment vous pourrez nous les fournir. Donc voilà, ça se prépare un peu. En effet, si vous avez déjà jeté un œil sur votre relevé de carrière et que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui semblent manquer ou qui semblent ne pas aller, il faut surtout ne pas hésiter à apporter les
documents
qui permettront de vérifier. Exactement.
Voilà. Alors, Monsieur Benville, je vous remercie. Je suis en train de préparer une émission sur le même thème la semaine prochaine avec l'attaché de la sécurité sociale portugaise auprès de l'ambassade. Je vais essayer d'avoir quelqu'un de la sécurité sociale portugaise. Ce serait bien aussi qu'on puisse avoir quelqu'un de l'assurance retraite Île-de-France pour compléter. Bon, l'information, on va continuer à la données, bien entendu, mais pour les gens qui s'apprêtent à partir en vacances, ceux qui partent pas, ceux qui sont intéressés à s'inscrire dûment.
On fait ça volontiers, sans aucun problème, on est ravis que Radio Alpha nous accompagne sur ce beau projet.
Voilà, comme déjà pour les premières journées. Alors, Monsieur Benville, une question d'une auditrice de Radio Alpha qui demande justement qu'est-ce qui se passe avec le retard de traitement des retraites, parce que on a vu que ça mettait des mois et des mois. Ça a été réglé, c'est pour une blague de retraite. Alors, de traitement,
il peut encore arriver de manière un peu minoritaire que certains dossiers traînent beaucoup, c'est vrai. Alors c'est parfois des dossiers un peu tardifs, c'est parfois des dossiers avec lesquels il y a une activité à l'étranger, donc c'est pour ça que ça peut un peu effrayer. un des avantages des journées franco-portugaises, c'est qu'au moins, pour tous ces dossiers qui auront été vus, tout aura bien été préparé, ça ne sera pas du tout un frein. Si on le prépare bien avant le dossier et qu'on le dépose bien quand on veut le paiement 5 mois avant, normalement, il n'y a pas de retard. En effet, si on ne l'a pas préparé, si on le dépose pas tardivement, on se complique un peu les choses. Il y a quelques dossiers qui sont en retard, on le regrette, mais la grande majorité des dossiers se passe très bien et le paiement se fait dans les temps sans aucun problème.
Oui, à un moment donné, il fallait attendre 3-5 mois pour toucher sa première retraite. Bon,
oui,
j'espère que le problème...
C'est rentré dans l'ordre. Oui, oui.
C'est rentré dans l'ordre. Monsieur Bainville, merci et j'espère reprendre ce thème dimanche prochain, parce que c'est très important. Deuxième journée d'information franco-portugaise sur les retraites du 7 au 9 novembre à Paris 19e. Merci, monsieur Bainville.
À très bientôt, bon dimanche.
Merci. E agora vamos mudar completamente de assunto e vamos fazer um resumo da reunião de trabalhos de 3 dias que tiveram os membros do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas. Estiveram em Lisboa, tiveram encontros com membros do Governo, do Parlamento e com candidatos à Presidência da República. Pedimos o resumo destas jornadas com Paulo Marques, Presidente do CCP França e Vice-Presidente do Conselho Permanente do CCP.
Muito bom dia, agradecer novamente o convite, que é sempre um momento onde podemos, obviamente, frisar tudo o que tem a ver com as comunidades e o papel preponderante nas políticas previstas para as comunidades espalhadas pelo mundo. O Conselho Permanente reuniu-se então de dia 7 a dia 9 e durante esses dias a primeira base, sendo a primeira reunião deste ano, mesmo se este ano ainda não faz um ano, só em outubro fará um ano, no entanto, depois de terem reunido os conselhos locais, nomeadamente Conselho das Comunidades de França, depois Conselho Regional, os regionais, sejam eles da Europa ou de outros continentes, e depois as comissões, foi a vez do Conselho Permanente poder recuperar todos os trabalhos que foram efetuados e ter uma programação, nomeadamente, a dar a todos os convidados, a todos os interlocutores que tivemos durante esses 3 dias, o relatório do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é a base de todos esses conselhos espalhados pelo mundo, começando, como eu já disse, pelos locais, os regionais e também pelas comissões temáticas. Foram 3 dias em cheio, com uma vertente muito forte, nomeadamente questionar reuniões de trabalho com o atual Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. Emídio Sousa, que nos permite, efetivamente, de dar nossa continuidade nos trabalhos e de ele também ter essa noção dos trabalhos que foram feitos já, não só neste ano, mas também nos outros anos, porque o Conselho das Comunidades também tem um passado e o passado permite de prever o futuro, e foram 3 dias de facto intensos, mas permitiram trocas de experiência, de alinhavar também linhas essenciais para as nossas comunidades e realçar todo esse trabalho feito, as preocupações, o que está mal, o que está melhor, o que é para desenvolver, enfim, foram 3 dias que permitiram dar voz às comunidades portuguesas.
Ora, Paulo Marques, uma constante em todos os encontros que vocês tiveram é a questão do voto eletrónico. Aparentemente já é tarde demais para fazer um teste nas eleições presidenciais, mas paralelamente a esta questão é a questão das modalidades de votar. Voto presencial para as presidenciais, por exemplo, voto por correspondência no que diz respeito para eleger os deputados. Portanto, essa questão, vocês tiveram encontros também com representantes dos partidos. Portanto, o que é que impera para modificar a lei eleitoral e unificar as modalidades de voto?
Então, parece que estamos em 2008, Artur, porque esta pergunta já tinha feito em 2008, quando eu era presidente da Comissão cívico e político, onde nós solicitávamos, o documento existe e está sempre patente, onde nós solicitávamos um misto das eleições, nomeadamente na época como se fazia para a Itália, que haja uma uniformização dos atos eleitorais, mas também uma facilitação. Enfim, nós depois, perto de 10 anos, onde não mexeu, mas relembramos também, e foi muito importante estarmos com a segunda comissão parlamentar que trata dos assuntos dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, e esse e comunidades portuguesas é importantíssimo, que não é cooperação, não é relações internacionais, é comunidades portuguesas. E aí frisamos novamente essa dificuldade. Aliás, foi também nos lembrado por alguns deputados que houve dois projetos de lei que tinham sido apresentados na Assembleia da República nos últimos 20 anos. Houve um teste em 2005, nos últimos 20 anos, mas nunca mais houve qualquer iniciativa. As duas iniciativas foram chumbadas por um dos maiores partidos, aliás, o Partido Socialista, quando houve a vontade de realizar uma modificação da lei, porque é preciso dois terços dos parlamentares. E aí sim, o nosso papel com as comissões parlamentares, com os partidos políticos, é essencial para eles aperceberem-se que noutros países realiza-se esses votos. Aliás, Artur, temos que relembrar, e eu solicitei, quando tivemos com a comissão parlamentar e com todos os nossos convidados, que vejam o teste que vai ser implementado pela França para o alargamento do voto à distância, via internet. Os franceses e o ministro atual solicita um teste antes das eleições presidenciais para que os franceses a residirem, por exemplo, em Lisboa, possam também votar à distância para o voto presidencial. Nós alertamos pelo facto que até amanhã há uma inscrição dos franceses espalhados pelo mundo para participar em este teste, e este teste vai decorrer de dia 19 a 22 de setembro numa plataforma segura durante um período de 5 dias. O objetivo de França é que para as eleições de 2027 já se saiba e já se possa prever como objetivo avaliar a robustez, Arthur, do sistema em termos de cibersegurança e gestão de fluxo. Arthur, nós lembramos novamente que França, por exemplo, os franceses a residir em Lisboa votam por internet para os seus deputados e qualquer residente no exterior vota para os 11 deputados do exterior. Aliás, isso teve implementação do presidente Nicolas Sarkozy, depois houve um abandono com o presidente Hollande e foi ativado pelo o atual presidente da República.
Mas, Paulo Marcos, já compreendemos um pouco qual é o sentido das exigências da comunidade através de vocês, mas se podemos avançar um bocadinho. Eu andei à procura de despacho da Agência Europeia, é a única fonte que eu tenho, e não encontrei alusão absolutamente nenhuma relativamente à questão do ensino de português. Vocês levantaram um problema com quem? Porque, nesse caso, bom, o ideal, bem, eu sei que é o presidente do Instituto de Camões, ainda que quem puxa para os cordões da Bolsa também é o Ministério da Educação. Porque é que não se falou, vocês falaram do ensino de português no estrangeiro, o chamado EPE?
De relembrar como é que funciona o Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho Permanente é a articulação do todo do Conselho das Comunidades. Seja, como eu relembrei logo no início, o Conselho das Comunidades Portuguesas funciona com as bases, que é os Conselhos de País, depois os regionais e depois as suas comissões temáticas, que nos permite ter uma avaliação muito mais direta em problemáticas que podem dizer sobre os assuntos, nomeadamente consulares, sobre assuntos, nomeadamente, do ensino, da participação cívica e política, dos mídias na sua globalidade, enfim, todas essas temáticas que estão previstas pela lei. Obviamente que se falou do ensino, com o seu secretário de Estado das comunidades portuguesas, é uma atenção forte, nomeadamente no que diz respeito à França, porque estamos aqui em França, mas também para o resto do mundo. De lembrar que em muitos continentes não há ensino português porque não é permitido pelos Estados, por esses Estados. tem que ser, não pode haver uma intervenção externa. Isso, por exemplo, é dos assuntos, como o Conselho Permanente é o todo, não é só França, não é só Brasil, não é só África do Sul, por exemplo, ou Macau, tem essa generalidade, e aí sim, é trazer, levar todas essas problemáticas que foram debatidas pelos os vários conselhos, país, região e temáticas, permitindo aí sim uma análise para quem tem a decisão máxima, que é o governo, e depois também o Parlamento. Porque temos também a ver que há situações onde é somente o Parlamento. E quando eu falo de participação cívica e política, é o Parlamento que tem que fazer essas mudanças. E é preciso dois terços. E aí é quase solicita-se, e é assim, é dois terços têm que votar para que haja uma mudança de lei. E obviamente, no que diz respeito ao ensino, é preocupante porque Paulo Marques está a falar hoje, se não tivesse tido o ensino português na época, não falaria este português afrancesado com o Arthur, porque não teríamos tido essa possibilidade de aprender, de ter uma ligação com a língua. Mas o ensino não é tudo para uma língua, mas também são os mídias, as rádios, as televisões, as plataformas, internet, os jornais. Isso tudo faz parte de uma sensibilidade portuguesa e de aproximação, nomeadamente para as nossas novas gerações, os nossos filhos, que são já netos ou bisnetos de quem chegou nos anos 60, e para nós é efetivamente alarmante o facto de haver muitas vezes um retroceder no que se poderia fazer. E Arthur, para acabar o propósito sobre o ensino, não esquecer que foi o atual governo de Emmanuel Macron que fez com que a língua do português fosse uma língua rara, porque já temos que lecionar durante o ano o português para poder apresentar no BAC o português. Então, não tendo essa possibilidade, é óbvio que há menos solicitação para o português, ele em língua materna ou sendo ele em língua internacional. E isso é gravíssimo. Aliás, é um trabalho que devemos continuar a sensibilizar, porque qualquer língua, seja ela portuguesa ou outra, teria que ter a mesma igualdade que o inglês ou com o espanhol ou com o alemão.
Com efeito, aliás, a França não respeita os acordos luso-franceses, e eu faço sempre a pergunta, quando é que se vai reunir essa comissão mista? É outra história.
Tur, comissões mistas houve tantas, lembra-se de Vallaud-Belkacem, onde houve três, pelo menos, reuniões sobre o ensino, e o ensino está na situação, o ensino do português em França, e com essas bilaterais, está na situação dramática que está hoje.
Com efeito, tornou-se, entre aspas, uma língua rara, mas enfim, isso é outra história. Será que o Conselho Permanente vai publicar, ou vai ser através das comissões temáticas, um resumo dos encontros e que ilações vocês tiraram destes três dias de trabalho em Portugal, ou não?
Temos esses relatórios, aliás, há um portal onde as informações estão patentes, e há também o historial. Mas foram três dias onde pudemos estar em proximidade, as comunidades portuguesas estiveram em proximidade com o atual Presidente da República, com o Secretário de Estado das Comunidades, com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, com a Secretaria de Estado das Finanças, a falar de finanças, com a Secretaria de Estado da Justiça, com o Presidente da Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro. Obviamente, isto tudo vai em cima da mesa, obviamente. É difícil falarmos de três dias em muito pouco tempo, ou então numa rúbrica jornalística. No entanto, o que foi muito importante foi a audiência aos candidatos à Presidência da República. Porquê? Porque permitiu também pôr, mais uma vez, as comunidades no debate às presidenciais. Recebemos António José Seguro, recebemos o Almirante Henrique Gouveia e Melo, e recebemos o Dr. Luís Marques Mendes, o candidato do Partido Comunista, e nós enviamos os sentimentos. Está a passar um momento gravíssimo, muito difícil. É um dos ex-deputados, agora candidato à Presidência da República, que também teríamos tido muito gosto em recebê-lo, mas os nossos pensamentos durante esta reunião de três dias para o ex-deputado e ao candidato pela perca da sua esposa. Finalmente, Arthur, para dizer que é sempre momentos eficazes e momentos importantes para as comunidades, e o que prevale é o trabalho. Às vezes é melhor falar pouco e agir, e as ações em proximidade com os nossos governantes são essenciais.
E voltamos ao dia de passagem de nível neste dia 13 de julho. Relembro, emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. No passado dia 24 de junho foi entregue no Parlamento uma petição assinada por mais de 12 mil pessoas que, entre outras coisas, pede que Portugal reconheça o Estado palestiniano, como já fizeram mais de 140 Estados no mundo. E quisemos falar com o António Sampaio da Nova, professor universitário e antigo candidato à Presidência da República e que foi embaixador de Portugal junto da Unesco em Paris e que fez parte, obviamente, da delegação que entregou essa petição na Assembleia da República. Aliás, houve a questão de reconhecimento do Estado da Palestina, esteve em debate na sexta-feira, precisamente na Assembleia da República, mas não foi ainda o debate sobre a petição.
Na verdade, o que foi discutido na última sexta-feira não foi a petição, não é? Foi uma outra iniciativa de um partido político sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. A petição ainda não está na fase de poder ser discutida no Parlamento. Mas, enfim, o tema é o mesmo. O tema é o mesmo e, portanto, o resultado provavelmente será o mesmo. Eu creio que é um erro, não é? Nós temos todos, que nos mobilizarmos pela paz, não é? Pela paz no mundo, pela tentativa de construirmos e de voltarmos ao multilateralismo, de voltarmos a entendimentos no plano internacional, e esses entendimentos exigem, no caso da Palestina, o reconhecimento do Estado da Palestina. É um tema que nós discutimos há décadas, não é? É um tema que, como sabe, mais de 3/4, ou cerca de 3/4 dos países do mundo já reconheceram o Estado da Palestina, cerca de metade, um pouco menos, mas cerca de metade dos países da União Europeia também já o fizeram, e é uma condição para termos interlocutores, para haver interlocutores de um lado e do outro que tentem, de algum modo, pôr fim a esta tragédia absolutamente inominável, sem nome, da tragédia sem nome que tem vindo a acontecer em Israel, primeiro, com os ataques terroristas absolutamente inaceitáveis, e depois com esta tragédia que está a acontecer em Gaza, na Cisjordânia, de uma brutalidade, que nós nem conseguimos imaginar.
Ora, Sr. Embaixador, voltando a Gaza, o Presidente norte-americano tinha falado de transformar aqui de uma espécie de Riviera. Sim, há mais de 2 milhões de pessoas, seria uma nova Mekaba 1948, quando centenas de milhares de palestinianos foram expulsos. O que é que vai acontecer a essa população? Porque os países à volta aparentemente não querem, mas, quer dizer, brinca-se ou joga-se com a vida de 2 milhões de pessoas, dizendo, vocês têm que ser embora daqui, para onde? Bom, como é que é?
Nós estamos a viver num mundo, não é? E eu faço parte de uma geração que viveu tudo o que foram os esforços no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Da construção das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da criação da Unesco, enfim, onde fui embaixador durante alguns anos, e eu faço parte dessa geração que durante 80 anos fomos assistindo, com avanços, com retrocessos, mas fomos assistindo à tentativa de criar um conjunto de regras, um conjunto de entendimentos, um conjunto de maneiras de nos relacionarmos no mundo. E parece que é isso tudo que está a desabar, como se não houvesse o direito dos povos à sua autodeterminação, à sua decisão própria, se fosse alguém nos Estados Unidos ou noutro lugar qualquer, na Rússia ou noutro lugar qualquer, que vai determinar o que é que as pessoas fazem, que lhes vai dizer o que é que têm que fazer, que lhes vai impor uma determinada maneira de viver. Parece que está a desabar toda uma arquitetura que com muitas imperfeições, mas fomos construindo ao longo destes últimos, praticamente destes últimos 80 anos. E isso é dramático porque ficamos sem referências, perdemos as referências. Como é que nos situamos? Quais são os valores? Quais são os valores essenciais, os princípios essenciais pelos quais devemos reger as nossas relações internacionais? E isso, se perdermos, como estamos a perder, esse chão, esse entendimento, esse mínimo de regras comuns, e pudermos fazer o que acabou de descrever, não é? De alguém, em algum lugar do mundo, decidir o que é que outros povos, o que é que outras pessoas, o que é que outros devem fazer, evidentemente que estamos a criar, eu não gosto muito de utilizar palavras desta força, mas quero dizer aqui, estamos a criar o caos no mundo, não é? E isso é o que verdadeiramente nos mobilizou também nesta petição, que, como disse e bem, não é apenas sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, mas que é para tentar abrir uma oportunidade de nos juntarmos e voltarmos a um conjunto de valores, não é? Sobretudo em torno dos direitos humanos, não é? para ver se ainda é possível, se ainda vamos a tempo de instaurar algum bom senso no plano internacional.
Sr. Embaixador, a União Europeia não tem um peso de duas medidas, perfeitamente reagiu contra a agressão e invasão russa da Ucrânia, mas relativamente àquilo que se passa em Israel, aí há mais recuo. Tanto mais que mesmo a União Europeia recusou rever o acordo comercial que existe entre a União Europeia e Israel. Bom, como é que é? Há um peso de duas medidas, Sr. Embaixador?
Tem havido, infelizmente, se todos, não é, ou se não somos todos, praticamente todos, não é, estamos de acordo com uma reação fortíssima ao que foi a agressão russa e a invasão da Ucrânia, que tem de ser absolutamente condenada sob todos os pontos de vista, e portanto acho que a União Europeia tem estado bem e tem sido muito, muito rigorosa nesse plano, mas como diz, não podemos depois fechar os olhos ou justificar com justificações diversas situações que não são comparáveis, mas que revelam também um nível de brutalidade, um nível de atrocidade, um nível de desumanidade, que a certa altura nós não encontramos palavras para isso. Eu lembro-me do América Guiar aqui dizer justamente isso: já não temos palavras para descrever o que se passa em Gaza. Ora, face a isso, não é possível. Quer dizer, a nossa legitimidade, a nossa autoridade, quer como pessoas, quer como Estados, quer como União Europeia, depende da nossa coerência, depende da nossa coerência própria. Não podemos fazer uma vez de uma maneira e outra vez de outra, e em uns casos fechar os olhos e em outros casos abrir os olhos. Esta coerência que deve pautar a nossa vida pessoal, mas que deve também pautar a nossa vida coletiva, evidentemente que tem falhado, e que tem falhado muito, nomeadamente no quadro da União Europeia. Ninguém pode justificar os ataques horríveis, absolutamente terroristas e criminosos que tiveram lugar no dia 7 de outubro de 2023, mas isso não justifica uma brutalidade igual ou ainda maior do ponto de vista das suas dimensões, não é? E do ponto de vista das suas consequências a que temos assistido nos últimos quase dois anos, no último ano e meio. E portanto sim, é preciso condenar, é preciso sermos coerentes, é preciso sermos consistentes, e é isso que nos dá autoridade, tanto como pessoas como Estados ou organizações.
Sr. Embaixador, atualmente criticar o governo israelita é difícil porque somos automaticamente catalogados de antissemita. Significa que o quê? As decisões do atual governo de Israel são, não há nada, não se pode dizer nada porque senão somos antissemitas. Até que ponto é que nós podemos avançar para tentar resolver os problemas?
Temos, exatamente o que diz, é muito difícil, não é? Mas temos de saber manter uma coerência, não é? E a coerência que muitos de nós devemos sempre manter, quer dizer, num antissemitismo que nós não podemos em nenhum momento aceitar, e, portanto, a defesa de princípios baseados nos direitos humanos é central, mas isso não nos pode impedir, prender a voz na denúncia de coisas que são inaceitáveis. E para mim, hoje, no mundo, na Palestina, em Israel, em qualquer outro lugar do mundo, a minha fronteira, a minha maneira de pensar os problemas são os direitos humanos. E esses direitos humanos têm que ser salvaguardados em todas as circunstâncias. É a minha bússola, se quiser. Quando muitas coisas desabaram, quando muitas referências desapareceram, a minha bússola são os direitos humanos. E esses direitos humanos têm que ser respeitados em Israel como na Palestina, em relação a Israel como em relação à Palestina, como em relação à União Europeia, como em relação aos Estados Unidos, ou ao Brasil, ou à China, ou à Rússia, ou à Ucrânia. Temos que ter princípios que nos orientem, princípios que nos possam ajudar a ver o mundo, a olhar para o mundo, a pensar o mundo, e não podemos ser cataventos, que umas vezes por interesse é de uma maneira, outras vezes por outros interesses é de outra maneira. Esta orientação, estes princípios que estão contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta ideia dos direitos humanos, que a meu ver é o que nos permite interpretar o mundo e situar-nos em relação a ele. Por isso, nesta petição, nós justamente chamávamos a atenção, logo na primeira linha, que os abaixo-assinados, e cito, vêm seguindo com crescente preocupação o agravamento das violações de direitos humanos, né, e da lei humanitária internacional. É o ponto. Nós temos que saber quem somos, onde é que estamos, e agir com coerência e não ter, como se diz na sua pergunta, não é? Umas vezes agir de uma maneira, outras vezes agir de outra, com justificações que são pobres justificações, são justificações medíocres, não é? Para justificar ou tentar justificar o que é mesmo injustificável.
Senhor Embaixador, uma última questão. Tem um percurso universitário e foi durante anos o representante de Portugal, o embaixador de Portugal junto da Unesco aqui em Paris, e a questão da educação é fundamental no meio disso tudo. Ora, precisamente na faixa de Gaza, praticamente não há nenhuma escola de pé. E por aí afora, de maneira que nós sabemos que a educação é fundamental, precisamente porque é a educação que forma os cidadãos, que faz com que os cidadãos tenham uma autonomia para refletir, de maneira que é a base de tudo a educação, Sr. Embaixador.
A educação é o lugar onde nos encontramos todos, não é? É o lugar onde todos nos educamos em conjunto, uns com os outros, não é? É o lugar que tem que ser o lugar da tolerância, que tem que ser o lugar do respeito pela diversidade, tem que ser o lugar onde aprendemos a estar uns com os outros, onde aprendemos essa ideia de uma humanidade comum nas suas diferenças, nas suas diversidades. E sempre que atacamos a educação, sempre que atacamos uma escola, sempre que pomos em causa essa possibilidade, estamos obviamente a diminuir, e a diminuir de maneira drástica, as possibilidades de um futuro com um mínimo de paz, com um mínimo de entendimento entre as pessoas, com um mínimo de respeito pelas suas diversidades. Isso é verdade em Gaza, como é verdade em muitos outros lugares do mundo, como é verdade em Portugal, quando tentamos construir discursos que de algum modo excluem, né, de pessoas ou crianças, né, das escolas, como é verdade quando nós tivemos já durante tanto tempo que defender a Universidade Europeia e a liberdade da Universidade Europeia atacadas na Hungria e noutros lugares, como temos hoje que defender a liberdade da ciência, a liberdade académica, que está a ser atacada em universidades dos Estados Unidos, que sempre nos habituamos a reconhecer como o lugar da maior liberdade académica, da maior liberdade científica. E, portanto, sim, tem toda a razão. A educação e a ciência, que são a grande matriz da Unesco, a educação e a ciência, que são os grandes lugares onde ainda podemos tentar construir essa humanidade comum. Cada ataque a uma escola, cada criança que fica sem educação, cada ataque à ciência, são ataques brutais à possibilidade de um futuro com dignidade e com humanidade para todos nós. É esse futuro que, em circunstâncias dificílimas, são as circunstâncias que hoje temos, nós precisamos de nos mobilizar, precisamos estar juntos, precisamos de nos de com as nossas convicções, com os nossos princípios, irmos continuando a defendê-los. Foi esse também o objetivo desta petição à Assembleia da República. Temos que nos mobilizar. Nós, cidadãos, é talvez a altura de nós, cidadãos, nos mobilizarmos em torno de princípios que estão a ser duramente atacados um pouco em todo o mundo e, em particular, porque este era o objetivo da nossa conversa, em Gaza e na Cisjordânia.
Sr. Embaixador António Sampaio, de novo, muito obrigado e voltaremos ao assunto quando a petição for debatida na Assembleia da República, a petição sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, mas de muito mais coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Um grande prazer estar consigo e com todos os ouvintes da sua rádio.
Antigo embaixador António Sampaio, de novo, com uma questão mais do que candente. Mudando completamente de assunto, pois bem, vamos até o salão, não é salão obscuro, é como quem diz, está muito calor e nada melhor que apanhar fresca onde? Nos cinemas. Isto vem a propósito do filme Le Rire et le Couteau, de Pedro Pinho, que foi estreado aqui em França na passada quarta-feira e que, evidentemente, é projetado em Paris, mas também nas principais cidades de Gol. Lesas. Aqui fica Bananouça.
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua. Que tivemos alguns problemas com o teu antecessor.
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
Quanto tu não fazes?
É assim, 40 mil.
Pega! Pega, pega, pega!
Por favor, guarda os sacos! Guarda os sacos!
Isso aqui é Sérgio.
Olha o jeito como ele está a tentar enturmar. A fingir que está tudo.
É um pouco até engraçado. Quem comer primeiro
o alvo,
a comida, ganha.
Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção?
Olha, esqueces o conselho? Tira-te. Isto não interessa a ninguém.
Então,
tu estás em todo lado.
Eu estou a ficar farto de caralho!
Você é muito feliz.
Do you want to be here? Why are you here?
Le Rire et le Couteau, um filme de Pedro Pinho que pode-se ver aqui em França. E vamos terminar com música, nem mais nem menos, concerto de Mayra Andrade aqui em Paris, no âmbito do Paris L'Été Festival. Daí este concerto decorre no Jardin des Tuileries, Paris primeiro. A data de concerto, sábado que vem, dia 19 de julho, a partir das 22 horas. E como se não pleuvait, pois espero bem que não chova nesse dia. Bem-ajam, obrigado, Manuel Alexandre, e até para a semana.
Mon doux billet de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne, main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise, et sur leurs joues en frange. Jadis ici j'étais reine, et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première,
comme si l'on pleuvait.
Nuit de diamants, poème posé sur mon chevet,
comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais,
comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour,
comme si l'on pleuvait.
De l'amour,
comme si l'on pleuvait.
Lune, mignonne, tout m'était dû par un revers de fortune. Voilà que j'ai tout perdu de mémoire d'un mot d'apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Laïa laïa, mots doux et billets de rigueur, intrigues enflammées,
comme si l'on pleurait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers,
comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédés si tu savais,
comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en serait compte,
comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.